Donc on continue cette émission Kiki et drôle d'oiseau, donc avec Joël et sa chronique sur donc tout ce qui concerne les manuscrits de Qumran, pardon, et donc Michael Langlois qui est là pour répondre aux questions. Et donc notamment là on parlait de tout ce qui était les idées de conspiration, qu'on avait essayé de garder
de
certains
cacher
textes
des manuscrits.
Secrets pour ne pas nuire au Vatican, chose qu'on en parlait pendant la pause, chose qui était un petit peu reprise aussi dans tout ce qui était Da Vinci Code, où il disait s'être inspiré de certains textes voilà, pour donner des éléments
de grosses conspirations.
Voilà, et autres. Et donc du coup, Michael, que peux-tu nous dire
donc
là-dessus?
Ce que je disais, c'est qu'il y avait matière à imaginer une conspiration. Le directeur des fouilles et de la publication est un prêtre. Bon nombre des gens de l'équipe sont des prêtres. Il publie des petites choses au début très vite et puis ensuite plus rien pendant des années. Et les gens se sont posé les questions, disent mais pourquoi? C'est louche, il doit y avoir quelque chose. Et en plus, quand on regarde le contenu des manuscrits, justement, il est question dans certains textes du Fils de l'homme, du Messie, on a des titres comme ça un peu messianiques, la fin des temps, enfin, on se dit, mais en fait, c'est ça, les Esséniens, on regarde le site, ils ont des baptistères, enfin, donc ce qu'on appelle nous un baptistère dans le christianisme, mais qui en fait sont des mikvé en hébreu, c'est l'espèce de baignoire où ils se font baptiser. Alors on pense à Jean, mais Jean il est dans le désert, et justement, Qumran c'est dans le désert, donc en fait, on se dit en fait Jean le Baptiste, il était là-bas, Jésus était là-bas. Donc en fait, les manuscrits de la Mer Morte, ça va nous apprendre enfin la vérité sur qui était Jésus, d'où il vient et qui était Jean. Et puis les parallèles avec le Nouveau Testament, des expressions, je sais pas, vous lisez Paul qui parle des trois filets de Bélial dans ses épîtres. On dit mais qu'est-ce que c'est que ça? On a la même expression à Qumran. Donc on se dit en fait tout ça, ils ont puisé tout ce qu'ils écrivent, tout le Nouveau Testament finalement c'est pompé. Ça vient des manuscrits de la Mer Morte. Et comme les manuscrits n'étaient pas publiés, on s'est dit le Vatican empêche ça. Alors en fait, c'est pas vrai. En fait, j'aime bien l'idée de la conspiration, mais en fait, non, le Vatican a rien empêché et il a même rien ralenti. Ce qu'a ralenti, c'est surtout, d'abord les difficultés scientifiques, c'est qu'il y avait des manuscrits qui étaient hyper difficile à déchiffrer. Et encore aujourd'hui, il y a des manuscrits qu'on a beaucoup de mal à déchiffrer. Ils sont très fragmentaires. Des fois, c'est l'impression que c'est une sorte de puzzle avec des milliers de pièces qui sont toutes de la même couleur et de la même forme. L'encre est à moitié effacée, donc on a des traces de lettres. On ne sait pas s'il faut lire telle ou telle lettre. Ça fait plein de combinaisons possibles. Enfin, donc, il y a un travail qui était énorme à faire. Et puis ensuite, il y a eu des facteurs politiques. Justement, j'expliquais tout à l'heure que Qumran, les manuscrits étaient revendiqués par les Jordaniens, par les Israéliens, par les Palestiniens. Tout le monde dit c'est à nous. Du coup, pendant des années, tout était gelé. On pouvait rien faire en attendant que ça se calme. À un moment donné, la direction a changé. Les Israéliens ont nommé quelqu'un à la tête pour justement, enfin pour des raisons politiques. Donc tout ça a vraiment compliqué la publication, ça a ralenti et rendu très difficile la publication des manuscrits. Et puis aussi, il y a eu des problèmes un peu personnels. Quand on regarde la vie des membres de l'équipe, je sais que Joël en parlait tout à l'heure, effectivement, il y a eu des soucis.
Voilà. Donc c'était un peu c'était ma question, parce que justement dans Qumran, on a l'impression qu'elle a vraiment calqué les personnages de son équipe de recherche. En fait, quand le livre commence, ça a l'air d'être vraiment un peu les chercheurs réels, avec d'autres noms, mais en respectant quand même la typologie des différents personnages
Ouais.
réels. Et en fait, là, enfin, on voit que c'est pas, justement, comme tu le dis, c'est pas une conspiration du Vatican, enfin, même s'ils sont quand même un peu mêlés dans le truc, mais c'est surtout qu'il y a un peu une conspiration, enfin, plutôt une espèce de malédiction des manuscrits de Qumran. Genre, une fois que tu as touché au manuscrit, ta vie part en latte.
Ouais, alors j'ai pas lu le roman, alors je sais pas si effectivement elle a vraiment pris
Bah ça, enfin moi j'avais quand même vu un truc où justement il parlait de l'équipe de recherche, enfin les gens qui ont vraiment travaillé au début. Et franchement, il y a des trucs
Mais
copier-coller, quoi.
c'est sûr. Ben en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a, enfin tous ont eu des problèmes personnels. La plupart de ceux qui étaient prêtres ont quitté les ordres. Ils ont eu des problèmes d'alcoolisme,
Parce qu'on parlait des champignons,
des
enfin
problèmes de
justement,
drogue.
où
Mais
il y
oui,
a
bien
les
sûr.
champignons hallucinogènes, je pensais pas que c'était vrai
Il y
ça.
a
Et
un
en fait,
bouquin,
si.
Allegro. Donc, en l'occurrence, le scientifique en question, c'est Allegro, qui faisait partie de l'équipe au départ et qui, à un moment donné, est devenu à moitié fou. Il se droguait et il a écrit un bouquin qui explique justement que finalement, le christianisme, tout ça, c'est né d'une secte qui cultivait des champignons hallucinogènes. Enfin, c'est... Et donc c'est, je pense que du coup, je te dis, là encore, j'ai pas lu le roman, mais à mon avis, tout ça, elle a pas eu de mal. La réalité est suffisamment romanesque, je pense, pour donner matière à un, voilà, un bon roman. T'as presque pas besoin. Peut-être effectivement, tu changes les noms parce que tu veux pas avoir d'ennui, mais globalement, tu peux garder le profil des chercheurs. C'est pas mal.
Mais j'ai quand même une question à te poser. Est-ce que Jésus était né avant ces manuscrits ou après, ou est-ce qu'ils ont été écrits à un moment précis? Est-ce qu'on arrive à les dater précisément? Est-ce qu'ils ont été tous écrits ensemble?
Ouais, alors Jésus, il est né à la fois, il est en plein milieu, disons. Il y a, parmi les manuscrits de la Mer Morte, les plus anciens datent du 3e siècle avant notre ère, quelques-uns seulement de la fin du 3e siècle. Un certain nombre du 2e siècle avant notre ère, et puis ensuite la grosse partie des manuscrits, ils ont été écrits au tournant de notre ère, le siècle qui précède et le premier siècle de notre ère, donc en plein milieu de la vie de Jésus. C'est là que le plus gros des manuscrits de la Mer Morte a été écrit. Donc en fait, c'est vrai que Jésus, il est né et il a vécu, il était en même temps, quoi, au même moment où il y avait justement ces scribes qui copiaient ces manuscrits. C'est vraiment contemporain.
D'accord.
Pose ma question.
Alors, on ne vole pas les questions.
Juste avant, tu disais que justement, il y avait encore des rouleaux que vous n'aviez pas pu déchiffrer. Enfin, vous n'aviez pas pu.
Ouais.
Que les chercheurs qui travaillent sur les manuscrits n'ont pas pu déchiffrer. Dans ces livres, on nous parle aussi de rouleaux qui auraient été perdus ou qui réapparaîtraient sur le marché parce qu'il y aurait un marché noir. Ou qu'il y aurait encore des rouleaux qui seraient cachés dans des grottes, etc. Et donc, je voulais savoir, est-ce qu'on pense vraiment qu'on peut retrouver encore tout un tas de manuscrits, ou est-ce que justement, il y a des manuscrits qui ressurgissent de nulle part
Oui, absolument. Non, ça, c'est vrai. Là, pour le coup, dans les grottes, les Israéliens ont fait ils ont fait des fouilles avec les militaires, ils ont essayé de ratisser, passer au peigne fin toute la région pour voir si par hasard il n'y a pas des manuscrits dans des grottes. Et ils ont recensé des centaines de grottes qu'ils ont fouillées, ils n'ont rien trouvé. Mais en même temps, pour ceux qui visitent la région, c'est des falaises, c'est du gruyère, c'est impossible d'imaginer qu'on a tout vu. Il y a encore pas très longtemps, on a trouvé au fond d'une crevasse, par hasard, du matériel archéologique, alors qu'il est beaucoup plus ancien que Qumran, pour le coup. Mais voilà, on n'est pas à l'abri un jour de trouver dans une petite crevasse, une petite fissure, un manuscrit. Donc d'une part, ça c'est sûr qu'on peut en trouver. Maintenant, ça va être, à mon avis, un coup de chance plus que de recherche.
Ça serait pas l'ampleur de ce qu'on a trouvé à Qumran.
Ben, je sais pas. On peut trouver, à mon avis, des beaux manuscrits. Et non, vraiment, pourquoi pas? Là, pour le coup, ça me surprendrait pas. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'il y a aussi des manuscrits qui se sont retrouvés sur le marché. La plupart d'entre eux, en fait. Quand les archéologues arrivaient sur place, ils avaient pratiquement systématiquement été précédés par les Bédouins. Et les Bédouins, ce sont les Bédouins qui ont trouvé les manuscrits, qui les ont présentés aux antiquaires. Donc l'existence même de ces manuscrits, on l'a su au travers des Bédouins, qui connaissent la région parce que c'est chez eux. Et du coup, quand les archéologues ils demandaient aux Bédouins, elle est où cette grotte? Les Bédouins, évidemment, leur disaient rien, parce que les Bédouins, ils marchandaient.
Ils gardaient leur...
Ils les revendaient, c'était un gagne-pain. Depuis le 19e siècle, les Bédouins savaient très bien que les Occidentaux cherchaient des trésors archéologiques. Et donc du coup, ils savaient très bien que s'ils trouvaient ce genre de choses, ils pouvaient le monnayer. Et donc une bonne partie des manuscrits de la Mer Morte, en fait, n'ont pas été trouvés sur le site lui-même par les archéologues, mais les archéologues les rachetaient aux Bédouins. Et ce ne sont pas les seuls à les avoir rachetés, il y a aussi des tas de collectionneurs privés. Et je suis en train je collabore à un projet de publication de manuscrits inédits. Il y a encore, là, l'an prochain, il y a un collectionneur norvégien qui a dans sa collection plusieurs manuscrits de la Mer Morte qui n'ont pas encore été publiés. Et on a une petite équipe et on est en train de publier ces manuscrits. Et j'espère qu'il n'y aura pas de malédiction comme celle dont tu parlais tout à l'heure. J'espère pas du tout. Et ce n'est pas le seul collectionneur. Depuis ces dernières années, c'est assez impressionnant. On en parlait justement cet été avec un grand responsable international qui encadre un peu tous les travaux qui sont faits sur Qumran. Et on a recensé des dizaines de manuscrits nouveaux. Enfin, nouveaux, ce n'est pas des nouveaux manuscrits, mais c'est des manuscrits dont on ne connaissait pas l'existence. et qui ressurgissent comme ça dans des collections privées et qu'il s'agit de publier. On se dit, mais ils viennent, de quelle grotte ils viennent? Est-ce qu'ils ont été écrits à la même époque, etc. Et ça soulève beaucoup de questions. On a eu une petite réunion de travail avec 4 spécialistes cet été, avec une Israélienne, moi, avec un Hollandais, enfin, avec quelques personnes qui sont spécialistes, disons, de la question. Et on se pose des questions, justement, sur l'origine de ces nouveaux fragments qui réapparaissent sur le marché. Est-ce qu'ils sont authentiques? Et ils viennent d'où? Et à quel moment ils ont été découverts? Et qu'est-ce qu'on va apprendre de ces manuscrits?
Ouais, est-ce qu'on peut avoir des scoops aussi? Parce que finalement...
Bah là, tout ce que je vous dis, c'est des scoops. Mine de rien, tout ce que je suis en train de vous dire, ça n'a pas été publié. Quoi. Les gens ne le savent pas. Pour le grand public, la doctrine officielle, c'est oui, tout est publié. Le dernier volume a été publié l'an passé. Ça y est, tous les manuscrits sont publiés. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'en fait, non, ce n'est pas vrai. Il y a des manuscrits qui sont dans des collections privées et qui sont en attente de publication.
Donc, ils recèlent des informations qu'on n'a pas encore.
Et qui ont des choses nouvelles qu'on ne connaissait pas.
Ah. C'est bon, je peux y aller. justement, du coup, tu parlais de faux aussi. On voit, enfin, dans les mystères de Jérusalem, il y a la mafia qui est sur le coup. Dans Qumran aussi, bon, il y a des intérêts un peu entre guillemets économiques. C'est des manuscrits qui ont une valeur marchande. Et si oui, laquelle? Enfin, si tu veux acheter un manuscrit de Qumran, combien ça coûte? C'est intéressant quand même.
Ouais, je suis pas très au courant de.
Est-ce qu'on peut en acheter? Enfin.
Oui, bien sûr, on peut en acheter. Moi, j'ai posé la question à des gens qui sont dans le milieu et qui savent un peu la valeur marchande. Moi, j'ai aucune idée, si tu veux, parce que voilà, je. Et les petites miettes, donc vraiment c'est peut-être 1 centimètre de côté, un truc comme ça.
Là, il nous fait la pièce de 1 euro. Hein.
C'est plusieurs milliers d'euros, un petit fragment comme ça. C'est sympa. Il y a un beau fragment qui fait, je sais pas, peut-être un quart de page A4, quelque chose comme ça. Ouais. Et celui-là qui n'a pas encore trouvé acquéreur d'ailleurs, parce que je crois que le vendeur en demande $1 million, quelque
D'accord.
chose comme ça.
Donc on peut envisager que la mafia s'intéresse à ces trucs.
Ah ouais. Ah oui,
parce que ça a vraiment une valeur. Parce que je me suis dit, est-ce que tu vois, ça a vraiment la valeur inestimable qu'on essaye de nous. Ou alors, est-ce que, en fait, ça n'a pas. Comme certaines œuvres d'art qui ont finalement plus une valeur si inestimable que ça, parce qu'en fait, personne ne veut les vendre ou.
Oui, alors là, c'est-à-dire que si on sait qu'ils ont été volés, évidemment, c'est difficile de les vendre. Si tu dis, attention, c'est volé, c'est bon. Mais là, en l'occurrence, c'est pas volé, c'est simplement, ça a été découvert, alors on dit pas forcément où, et du coup, tu peux les vendre sans problème. Et ce qu'on m'a expliqué, c'est que la valeur de ces manuscrits, elle augmente avec le temps. Parce que maintenant, plus que jamais, on est conscient de la valeur des manuscrits de la Mer Morte. Il y a 50 ans, quand on les découvrait,
on voit dans Qumran,
le petit fragment, c'était $5. C'était $5 le petit fragment. Parce qu'il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Et donc, on se disait, tiens, c'est intéressant, ces manuscrits, on les achète. Mais maintenant, c'est justement, à quelques dizaines d'années après, où on a tout publié, on voit le trésor que ça représente. Il y a des romans qui sont écrits là-dessus, il y a des émissions de télévision, il y a des bouquins, enfin bref, tout ce qu'on veut. Donc les gens entendent parler, les gens disent « Waouh, c'est précieux, il y a des expositions ». Il y a 2 ans, on a fait une expo à la Bibliothèque nationale là-dessus. Donc les gens réalisent plus que jamais la valeur de ces manuscrits. Et c'est aussi pour ça que les fragments apparaissent maintenant. Je pense que c'est des gens qui ont depuis longtemps ces fragments, mais qui ont attendu. Ouais. Que ça prenne de la valeur. Et puis, il les distille au compte-gouttes. Parce que si un antiquaire te dit « Mais moi, j'ai des centaines de fragments », bon, bah, du coup, la valeur marchande, elle baisse. S'il te vend le fragment en te disant « C'est le dernier fragment que j'ai. C'est le tout dernier, c'est la dernière occasion pour un collectionneur d'avoir dans sa collection un manuscrit de la Mer Morte. Après, il n'y en aura plus. » Alors, les enchères montent. Et puis, une fois que tu as vendu cela, 2 ans après, tu dis « Ah !»
Mais en fait, j'avais encore
en fait, voilà, j'en ai encore. Mais... c'est vraiment le dernier cette fois-ci. Et c'est comme ça que les antiquaires font. Et en fait, je comprends pourquoi... Alors, pour nous, les scientifiques, c'est terrible parce qu'on travaille à chaque fois avec des petits confettis qu'on nous distille au compte-gouttes et on aimerait bien avoir tout d'un
c'est
coup...
C'est pas facile d'être chercheur. Hein.
Non, exactement, c'est pas facile.
Moi, j'ai une dernière question, c'est à propos des chercheurs. C'est que, en fait, dans tous les livres, genre dans les mystères de Jérusalem... Et dans Qumran, en fait, les chercheurs, c'est tous des espèces d'agents doubles. Ils sont un peu tous, tu vois, agents secrets. Ils travaillent pour le Mossad, le Shin Bet, ou le Vatican, ou la mafia.
Ils ont plusieurs passeports.
Oui, ils ont plusieurs passeports. Parce que les manuscrits, en fait, ils ont la valeur... Enfin, Donc, ils sont présentés comme ayant de la valeur pour le judaïsme, le christianisme, la nation d'Israël, une valeur marchande, etc., etc. Et donc, il y a plein d'intérêts. Et en fait, tous les chercheurs sont des agents secrets. Donc, est-ce que tu es un agent secret ? C'était ma dernière question.
Attention, le scoop.
Talam.
J'ai plusieurs passeports.
C'est énorme.
Bon, bah, moi je trouve que c'est une belle conclusion de cette chronique. Donc merci en tout cas, Michael, pour tes réponses.
Avec plaisir.
Donc on va rappeler un petit peu, c'était en lien avec donc deux romans. Joël, tu veux bien nous redire les noms et les auteurs,
s'il te plaît. Donc Qumran d'Eliot Abécassis, au livre de poche, et Les Mystères de Jérusalem de Marie Calter, au Press Pocket.
D'accord, merci beaucoup. Et donc du coup, Joël et Michael ont un petit peu discuté donc autour de ce qui est d'éléments qui apparaissaient dans ces romans pour voir un petit peu la véracité de ces derniers et donc un peu pour faire le point. En tout cas, merci encore Michael de ta présence et de ces réponses. C'était très intéressant. Et puis on va finir donc avec Raphaël.
Et ouais, avec ma chronique.
Alors, qu'est-ce que tu
Il vient de se réveiller.
Qu'est-ce que tu vas
faire? Ouais, je me. Ouh, c'était long, hein. Mais c'était intéressant.
Il a dormi, mais c'était intéressant. Hein, faut
non,
pas
non,
croire.
Pas du tout. J'ai été suspendu à tes lèvres. Vraiment. D'ailleurs, enfin bref. on va pas aller plus loin.
Est-ce que tu peux me signer un autographe?
Ouais, presque. Donc, moi, je vais parler de la suite de l'épisode numéro 1 du mois dernier, donc le cloud. Donc, le titre de ma chronique, c'est le cloud épisode 2.
D'accord.
Et ouais.
Un petit morceau de musique, et puis du coup, on reparlera un peu pour parler de. On se retrouvera pour parler de nuages un petit peu, ce sera.
C'est ça.
Ce sera une belle fin.